VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde. Aujourd'hui, édition du mercredi 19 juin 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, 38 civils ont été tués dans de nouvelles attaques contre des villages Dogon dans le centre du pays, tandis que l'armée tombait dans une embuscade plus au nord.
Au Bénin, les avocats de l'ancien président Thomas Yayi Boni réagissent à la mesure coercitive annoncée contre leur client par le procureur de la République.
En Guinée-Bissau, le président José Mario Vage a fixé au 24 novembre la date de l'élection présidentielle.
Ici aux États-Unis, les responsables de l'armée et de la diplomatie américaine soulignent qu'ils ne veulent pas la guerre avec l'Iran.
Le président Donald Trump a lancé hier soir en Floride sa campagne de réélection en 2020.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, une nouvelle tuerie dans des villages Dogon, Gangafani et Yoro a fait 38 morts et de nombreux blessés dans le centre du Mali, où le président Ibrahim Boubacar Keïta a récusé il y a quelques jours toute notion de conflit interethnique. Et à Gossi, dans la région de Tombouctou, une patrouille des forces armées maliennes est tombée dans une embuscade. Le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
Si à Sobanda, la cible des assaillants était des enfants et des vieilles personnes, cette fois-ci, à Gangafani et Yoro, non loin de la frontière avec le Burkina Faso, ce sont des bras valides qui ont été tués dans les champs. Le bilan provisoire est de 38 morts et de nombreux blessés. Le gouvernement qui qualifie cette attaque de terroriste a envoyé un contingent de forces de défense et de sécurité pour sécuriser les populations et leurs biens et traquer les auteurs de ces attaques. Par ailleurs, une patrouille de FAMA est tombée dans une embuscade terroriste à Baguilan, sud-est de Gossi. Des renforts ont aussi été envoyés pour secourir les éléments victimes d'attaques terroristes et sécuriser la zone. Le bilan n'est pas encore connu, mais le gouvernement rassure qu'il informera la population de l'évolution de ces différentes situations. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, 4 personnes, dont un soldat, ont été tuées près de Jos, dans le centre du pays, par des hommes armés non identifiés, a annoncé hier la police locale. La police et l'armée sont intervenues lundi soir après avoir reçu des informations selon lesquelles le village de Tumborok, dans le district de Riom, dans l'état du Plateau, était attaqué. Cette région de Riom est un foyer de tensions intercommunautaires qui a connu des affrontements répétés entre agriculteurs et éleveurs ces dernières années.
Auparavant, toujours au Nigeria, des sources sécuritaires avaient annoncé hier qu'au moins 15 soldats ont été tués dans l'attaque d'une base militaire par des combattants du groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est, en proie à une sanglante insurrection armée depuis 10 ans. Des hommes soupçonnés d'appartenir à la faction de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ont pris d'assaut lundi soir la base militaire à la périphérie de la ville de Gadjiram, à 80 km de la capitale régionale Maïdougouri.
Au Bénin, les avocats de l'ancien président Thomas Yayi Boni sont montés au créneau à la suite de l'intervention du procureur de la République pour apporter des clarifications sur la supposée implication de l'ex-chef d'État dans les manifestations post-électorales de mai dernier à Cotonou. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Selon Maître Kato Atita, l'un des avocats de Yayi Boni, son client ne saurait être le seul responsable des dégâts enregistrés lors des événements du 1er et 2 mai à Cotonou. Pour lui, l'ancien chef d'État fait partie d'un bloc et s'accrocher à sa seule personne à tout l'aide d'un harcèlement. Il déplore l'isolement de son client et exige que les droits de ce dernier soient respectés. Les deux avocats ont aussi relevé des erreurs judiciaires contenues dans l'intervention du procureur de la République après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Mario Mentonou. Selon Maître René Agbodjo, avocat personnel de l'ancien chef d'État, le fait d'avoir déduit publiquement l'implication personnelle de Yayi Boni dans les interrogatoires et pièces du dossier viole l'article du code de procédure pénale et qui stipule que la procédure est secrète. Aussi, selon les avocats, affirmer de façon publique que le juge voudrait prendre des mesures coercitives à l'encontre de l'ancien chef d'État est comme si le procureur est devenu le porte-parole du juge alors qu'il n'est que le défenseur de la société. Les deux avocats ont aussi souligné la violation de la présomption d'innocence. Pour eux, le procureur, à travers sa sortie médiatique, a déjà condamné l'ancien chef d'État sans même lui donner la chance et l'opportunité de se défendre. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
En Guinée-Bissau, le président José Mario Vage a fixé hier la date de l'élection présidentielle au 24 novembre. Il a publié un décret officiel après des consultations sur les moyens de sortir de la crise politique qui secoue son pays. John Lyndon.
L'élection présidentielle est fixée au 24 novembre 2019. Cette date est le fruit d'une concertation entre le président Vaz, les 49 partis politiques, le gouvernement et la Commission nationale des élections. L'annonce de cette date n'a pas débloqué le contentieux autour de la composition du bureau de l'Assemblée nationale où le PAIGC et ses alliés contrôlent une majorité de 54 sièges sur 102. Malgré le bon déroulement des élections législatives du 10 mars, remportées par le PAIGC dirigé par Domingo Simoes Pereira, le pays peine à sortir de la crise politique qu'elle traverse depuis août 2015. Ce blocage contribue au retour persistant de la désignation du Premier ministre, poste pour lequel la majorité parlementaire a proposé M. Pereira. La crise politique actuelle inquiète, d'autant que les élections de 2014 devaient marquer un retour progressif à l'ordre dans ce pays habitué des putschs à répétition.
Les partisans des frères musulmans à l'étranger continuent de rendre hommage au président déchu Mohamed Morsi, décédé lundi en plein procès au Caire. Tel a été le cas à Istanbul en Turquie et à Amman, où dans un communiqué, les frères musulmans jordaniens ont accusé le régime égyptien, je cite, d'avoir assassiné Morsi en le privant de ses médicaments et de contact avec sa famille et ses proches. Pour sa part, l'ONU a réclamé une enquête minutieuse et indépendante, tout comme Amnesty International et Human Rights Watch.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a lancé hier soir en Floride sa campagne de réélection en 2020. À cette occasion, M. Trump a attaqué avec violence les démocrates, les accusant d'être guidés par la haine. Les précisions d'Irénée Herman Ungbo.
Fidèle à son style provocateur, le président américain en quête d'un second mandat a d'entrée enflammé la salle. Faisant huer tour à tour les médias fake news, Hillary Clinton, sa rivale de 2016, son prédécesseur démocrate Barack Obama ou encore l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la campagne de 2016, il a accusé ses adversaires politiques de vouloir détruire le pays. Quatre ans de plus, scandaient ses partisans dans la salle, rythmant un discours à la tonalité très agressive, sans de véritables nouvelles propositions politiques. Promettant un séisme dans les urnes, M. Trump l'a assuré, nous y sommes arrivés une fois, nous y arriverons encore, et cette fois nous allons finir le travail. Donald Trump, en position très délicate dans les sondages, sait qu'il devra s'imposer dans le Sunshine State, l'état clé de Floride, s'il veut se maintenir 8 ans au pouvoir, comme ses prédécesseurs Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton.
Washington et Pékin, enlisés dans une guerre commerciale à l'issue imprévisible, ont envoyé hier des signes de détente annonçant la reprise du dialogue au plus haut niveau. Le point avec Morgan Guerriec.
Le président Donald Trump a révélé dans un tweet avoir eu une très bonne conversation téléphonique avec son homologue chinois Xi Jinping. Au cours de cet entretien, M. Xi Jinping a aussi plaidé en faveur de la coopération. « Nous aurons une longue rencontre la semaine prochaine au G20, à Osaka, au Japon », a ajouté le président américain, précisant que les équipes américaines et chinoises seront en contact avant pour préparer ce tête-à-tête très attendu. Cette rencontre pourrait non seulement relancer le processus de négociation, mais encore arrêter l'escalade dans l'imposition de taxes douanières punitives réciproques. Le conseiller économique à la Maison-Blanche a toutefois invité à la prudence. Pour Larry Kudlow, il n'y a pas de garantie de progrès notable sur la possibilité d'une avancée dans ces futures négociations.
Les hauts responsables des forces armées et de la diplomatie américaine n'ont aucune intention de relâcher la campagne de pression maximale sur l'Iran, bien que le régime de Téhéran réagisse de manière de plus en plus dangereuse. Malgré l'accroissement des tensions au Moyen-Orient, les officiels américains soulignent aussi ne pas vouloir commencer une guerre, bien que beaucoup dépendent de ce que va faire l'Iran. Les nombreux messages envoyés à Téhéran sont clairs. Les États-Unis cherchent à dissuader toute velléité d'agression et feront ce qui est nécessaire guerre pour protéger leurs intérêts, a déclaré hier le secrétaire d'État américain Mike Pompeo en visitant le commandement central américain à Tampa, en Floride. L'Iran, qui le dément, est accusé de la responsabilité de récentes attaques contre des pétroliers dans le golfe d'Oman.
En pleine montée des tensions avec l'Iran, le président Trump a été contraint hier de se séparer de son ministre de la Défense par intérim, Patrick Shanahan, qui a été remplacé par le secrétaire de l'armée, Mark Esper. Dans un tweet, M. Trump a annoncé que M. Shanahan a décidé de consacrer plus de temps à sa famille. M. Shanahan a affirmé vouloir éviter à ses enfants de revivre un chapitre traumatisant et de rouvrir des blessures ayant nécessité des années à panser. Une allusion à des accusations mutuelles de violence conjugale entre lui et son ex-épouse au début des années 2010.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
En République démocratique du Congo, l'armée a déployé environ 800 hommes pour traquer des mineurs illégaux qui envahissent les concessions de Tenke Fungurume Mining, une des plus importantes sociétés minières privées dans le sud-est du pays. L'entreprise chinoise Tenke dénonce régulièrement l'envahissement de ses concessions de cuivre et de cobalt par plus de 10 000 mineurs artisanaux qui y exploitent illégalement des minerais. L'Éthiopie va diviser Ethio Telecom, son fournisseur de télécommunications, en deux entreprises avant sa privatisation. Il y aura le secteur des infrastructures et celui des services. La semaine dernière, l'Éthiopie a adopté un projet de loi instituant un régulateur pour ce secteur afin d'attirer les investissements extérieurs. Terminons avec le Cameroun qui espère lever 20 milliards sur le marché de la Banque des États de l'Afrique centrale. L'opération se déroulera auprès de 17 spécialistes en valeur du trésor et de 5 autres pays dont le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad. L'objectif est d'être en adéquation avec les critères du FMI avec lequel le Cameroun est sous un programme triennal de réforme appuyé par la facilité élargie de crédit.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Préparation spéciale pour Sadio Mané en Égypte pour la CAN.
Oui, le Sénégal, l'une des nations annoncées comme favorite de la CAN 2019, devra faire sans sa star suspendue pour son entrée en lice le 23 juin face à la Tanzanie. Sadio Mané, récemment sacré champion d'Europe avec son club Liverpool, a rejoint ses coéquipiers en Égypte mais s'entraîne à l'écart. Sedina Abagé, notre correspondant à Dakar, est présentement au pays des pharaons avec les lions de la Teranga. Il a suivi une des séances d'entraînement de Mané.
La star des Lions a pris du retard dans la préparation à cause de la finale de la Ligue des Champions qu'il a disputée et gagnée avec Liverpool. Raison pour laquelle jusqu'à présent, il fait un travail physique pour se mettre au même niveau que ses coéquipiers. Il a ainsi eu droit à un programme spécifique, musculation des pieds, la vitesse, les réflexes et l'explosivité. Sadio Mané n'a pas participé au match de ce dimanche contre le Nigeria. Il sera également absent lors du premier match de groupe du Sénégal car il doit purger une suspension d'un match pour cumul de cartons lors des éliminatoires. Et ce sont ces facteurs qui ont conduit Aliou Cissé à choisir Diao Baldé Keita pour suppléer la star de Liverpool. Et il faut dire que le sociétaire de l'Inter de Milan s'est montré très en forme. Enfin, il faut signaler que Sadio Mané a intégré le groupe pour la première fois ce lundi. Il a commencé un travail avec le ballon, même s'il a fini à l'écart avec le préparateur physique de l'équipe nationale.
Michel Platini, placé en garde à vue.
L'ex-patron de l'UEFA a été placé en garde à vue à Nantes dans le cadre de l'enquête pour corruption sur les conditions d'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le parquet national financier a ouvert en 2016 une enquête préliminaire autour des conditions d'attribution par la FIFA des mondiaux 2018 à la Russie et 2022 au Qatar. La justice française s'intéresse en particulier à une réunion secrète au palais de l'Élysée le 23 novembre 2010, à laquelle ont participé Nicolas Sarkozy, le prince du Qatar Tamine bin Ahmad Al Thani et Michel Platini, alors président de l'UEFA et vice-président de la FIFA. Les conseils de Platini ont indiqué qu'il ne s'agit en aucun cas d'une arrestation, mais d'une audition comme témoin dans le cadre voulu par les enquêteurs.
Athlétisme, Caster Semenya se plaint d'avoir été utilisé comme, je cite, « un rat de laboratoire ».
La Sud-Africaine double championne olympique du 800 mètres accuse l'I2AF d'avoir expérimenté sur elle un traitement hormonal destiné à réduire son taux de testostérone. C'est ce qu'exige désormais le nouveau règlement de la fédération de la part des athlètes hyperandrogènes pour concourir au niveau international du 400 mètres au 1000. Débuté par le TAS le 1er mai, Caster Semenya a depuis fait appel devant le tribunal fédéral suisse qui a suspendu de façon provisoire l'application du règlement pour la championne sud-africaine seulement.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sidou Diad, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Norbert Basengizi, a remis sa lettre de démission alors que normalement le mandat du bureau de la CENI arrive à son terme fin juin. Joint à Kinshasa par Eddy Sango, M. Norbert Basengizi s'exprime pour la première fois sur les sanctions américaines à l'encontre des membres de la CENI, dont lui-même.
Je me conforme à cet article 13 pour dire le mandat est terminé. Notre mission, c'était amener le peuple congolais aux élections. Ça a été fait avec satisfaction. On a eu pour la première fois une alternance pacifique. L'article 14 donne la permission pour terminer un mandat à quelqu'un de le faire par démission. C'est pas que l'on doit être toujours en groupe. C'est pas la première fois qu'on quitte la CENI. Moi-même, j'ai remplacé quelqu'un.
Accepterez-vous alors d'être reconduit si jamais votre parti vous désignez pour être reconduit?
C'est la deuxième fois que je travaille à la CENI. Je crois que je dois commencer à écrire mes mémoires.
Vous êtes sous les sanctions américaines. Vous n'avez jamais rien dit à ce sujet.
J'ai dit que je ne reconnais pas ça. Par exemple, un point. Quand on dit que nous avons fait traîner les élections au Kassai parce que c'est un chef de l'opposition. Aujourd'hui, le président est lié de l'opposition. Mais celui qui a écrit ça ignore que même vous, les Américains, vous avez perdu. Et nous présentons des condoléances pour ça. Un compatriote au Kassai, à cause de l'insécurité, il faut vérifier ça. Quand on dit dans ces sanctions qu'on a mis déjà les résultats de Ramazan Shadari. Les résultats qui sont sortis, c'est de notre de l'opposition. Et c'est à vous de voir de ne pas faire un tel débat, je crois, au niveau diplomatique, au niveau de ceux-là qui ont écrit ça. Il faut qu'ils voient entre ce qu'ils ont écrit et la réalité sur terrain, qu'est-ce qui est bon. Mais moi, je dirais tout simplement qu'ils auraient bien fait et bien réfléchi de nous interroger même. Moi, je n'ai jamais vu même une lettre d'interrogation pour ça, sauf des questions comme celles que vous venez de me poser. Nous allons continuer la coopération avec les Américains. Je crois que c'était des choses liées à son temps et que dans la bonne coopération, dans la bonne compréhension entre États, cela passera. Je crois que c'était des circonstances d'une politique du moment.
Mais de toutes les accusations, c'est vous qui êtes les plus concernés. D'abord, on parle de votre fils, on parle de votre polyclinique, on parle de carburant, on parle de beaucoup de choses. Je crois que vous connaissez mieux que moi.
La polyclinique que j'ai, ça date de 99, ça date de 20 ans. À Bukavu, il y a une polyclinique à Bukavu en 99 et c'est conventionné. Donc ça régit les règles de toute une association sans but lucratif. Tu parles de mon fils, lui n'a jamais été mêlé dans les histoires du Kargra dans les Kassai. Et lui est venu à la CENI en 2016. Les histoires de machines à voter datent de 2013, 2014, 2015. Tu es loin, si j'avais ton adresse mail, je pourrais même t'envoyer les documents des gens qui sont allés négocier les machines à voter en 2014, 2015. On les parce qu'il a étudié en Corée du Sud. Mais qui ne me dit pas que ses enfants aussi sont américains. Donc, vous êtes content de trouver à quelqu'un, même de voir ses enfants.
Le vice-président démissionnaire de la CENI, Norbert Basengizi, Eddy Sango, l'a joint à Kinshasa.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Le Tchad abrite cette semaine, du 18 au 19 juin, une conférence internationale sur l'éducation des filles et la formation des femmes dans l'espace francophone. La rencontre vise à promouvoir des pratiques éducatives dénuées de stéréotypes sexistes. Notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar, fait le point.
À travers la rencontre de N'Djamena, les partenaires de l'éducation et l'Organisation internationale de la francophonie s'engagent à réduire les inégalités et les disparités de genre en luttant contre toute forme de discrimination basée sur le sexe.
Pour inverser la tendance, le gouvernement a lancé des actions fortes, à la fois sur le terrain politique, institutionnel et pédagogique.
Idriss Déby Itno, président du Tchad, ses actions sont entre autres la loi 29 interdisant le mariage des filles mineures, l'instauration des prix d'excellence pour encourager les filles à finir leur cursus scolaire dans un pays où plus de 86% des femmes sont analphabètes. Toutefois, le président Déby reconnaît qu'il reste beaucoup à faire.
En 1991, on comptait certainement moins de 10 000 filles. Dans certaines régions, quand vous partez dans les classes, vous avez plus de filles que de garçons aujourd'hui. Mais à partir de ces premiers cycles, il y a une sorte de chute vertigineuse des nombres de filles. Donc, il faut que nos filles soient nombreuses à investir le territoire des écoles, collèges et lycées.
Pour les observateurs, ce sont les pesanteurs sociales et la pauvreté qui amènent les parents à retirer leurs filles de l'école à un certain âge pour les donner en mariage. Madame Nadi Samdougou Baktara, membre de la société civile, elle coordonne un projet de formation à distance des maîtres au ministère de l'Éducation nationale.
Généralement, les parents disent qu'ils ne voudraient pas quand la fille devient déjà adolescente. Là, on s'est dit qu'elle va amener la honte dans le foyer. Certaines traditions disent qu'il faudrait que la fille, elle peut avoir ses premiers menstrues, mais pas les deuxièmes au foyer. Donc, il faut vite la confier à un mari. Mais avec les engagements des mobilisations sociales, du ministère, des partenaires et même des organisations de la société civile, les choses sont en train de changer favorablement.
La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Musikiwabo, exhorte les États membres de son organisation à doubler d'efforts pour que les filles aient le même niveau d'instruction que les garçons.
Nous devons tout faire pour que l'éducation des filles soit portée par nos sociétés, dans le respect de nos traditions, dans le respect de nos pratiques, et nos pays n'attendent que ça. Des préjugés tenaces considèrent que l'éducation s'adresse en priorité aux garçons qui doivent devenir de bons chefs de famille. Il nous faut agir ensemble pour y mettre fin.
Le président Déby rassure ses partenaires qu'un signal fort sera lancé à l'issue de cette rencontre à toute la communauté francophone pour la scolarisation massive et le maintien des filles à l'école au même titre que les garçons. Car, dit-il, beaucoup de pays francophones dont le Tchad sont à la traîne de cette réalité. André Kodumadjingar N'Djamena, VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Gabon, une brigade bleue comme plan d'attaque au phénomène des fuites d'eau dans plusieurs quartiers de Libreville, la capitale. Le gouvernement veut en finir ainsi avec les pénuries qui affectent les ménages. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
L'urbanisation galopante de Libreville impose de nouveaux défis au gouvernement, dont celui de la mise en place d'un plan d'adduction d'eau potable encore absent dans de nouveaux quartiers. C'est le cas ici derrière l'hôpital militaire au kilomètre 9 de la capitale. Irène Moussavou, habitante du PK9.
Nous sommes obligés d'utiliser l'eau de la rivière pour laver les habits des nouveau-nés, pour se laver, pour laver les assiettes.
Se doter d'un compteur d'eau n'est pas à la portée de tous les ménages. Gabriel Mbina, fonctionnaire à la retraite.
Alors, on n'a pas moins de 500 à 600, 700 000 mètres dans la poche pour que vous puissiez avoir de l'eau chez vous. C'est parce qu'il y a d'abord un problème d'abord d'accès, il n'y a pas la route. Et deuxièmement, la SCG ne fait pas un effort de se rapprocher des populations pour avoir de l'eau. Ce cours d'eau que vous avez vu tout à l'heure, là, il y a des femmes, des enfants qui se lavent là. Et chaque jour, beaucoup sont victimes de la bilharziose. On n'a pas de choix.
Alors que le PK9 de Libreville espère en finir avec les cours d'eau insalubres, les quartiers Aveya, Nkembo sont bien servis en eau potable, mais restent parfois de longs mois sans goutte d'eau au robinet. Constant Eyenba, étudiant.
Ça fait pratiquement des mois que l'eau n'arrive pas. C'est vraiment une situation qui n'est pas bien pour les populations.
Pour faire face à cette situation difficile, le gouvernement vient de mettre en place une brigade bleue pour réparer les fuites d'eau à Libreville et ses environs. Tony Ondomba, ministre gabonais de l'énergie et des ressources hydrauliques.
La production de SEG est estimée à 230 000 m3 d'eau aujourd'hui.
l'autre été au niveau des usines dans tous mes différents forages qui sont environnants. Nous avons près de 50% de cette eau qui est produite et donc traitée par la SEG qui n'est pas commercialisée en raison notamment des pertes techniques et des fuites. Imaginez-vous, une ville comme Port-Gentil consomme en moyenne 30 000 mètres cubes d'eau. Lorsque vous faites le ratio, nous perdons presque 130 000 mètres cubes d'eau uniquement dans la région du Grand Libreville. C'est-à-dire l'équivalent de 3 à 4 villes comme Port-Gentil. Si nous arrivons à lutter durablement et efficacement contre ces fuites, ce sont autant d'eau que nous pourrons mettre à la disposition des populations et qui seront donc de nature à venir résorber le stress hydrique que nous observons dans les quartiers.
Depuis Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
La semaine dernière, le virus Ebola qui sévit en République démocratique du Congo a fait son apparition en Ouganda. Depuis, il a non seulement fait 2 victimes, mais il a pratiquement arrêté le commerce transfrontalier entre les deux pays. Halima Altoumani s'est rendu à Kasese à la frontière ougandaise. Son reportage est repris ici par Lionel Gahima.
Depuis 15 ans, l'homme d'affaires Penge Kiss vend en République démocratique du Congo du poisson du lac Albert en Ouganda. Mais depuis une semaine, il dit n'avoir guère d'autre choix que de rester en Ouganda à cause de l'épidémie Ebola le long de la frontière.
Kinshasa, tout est bon. Mais ça, tout me fait qu'à...
À Kinshasa, nous ne connaissons pas le virus Ebola. Mais quand vous venez ici à la frontière, c'est toujours laver les mains, laver les mains, laver les mains. Et quand je suis arrivé ici, nous avions travaillé 3 jours. Au Congo, le commerce est mort. Ils disent qu'il y a Ebola, alors nous devons attendre que ça passe. Car même les banques sont fermées.
Farouk Ayoub est conducteur de moto-taxi. La peur du virus Ebola l'empêche de se rendre au Congo.
Normalement, nous transportons principalement des Congolais. Nous les prenons au Congo pour les amener en Ouganda. Mais nous avons peur de l'Ebola. Maintenant, nous nous demandons comment on peut nous aider et comment nous protéger contre le virus Ebola.
Raphaël Masereka, homme d'affaires ougandais, explique que ses collègues et lui exhorte les gens à ne pas serrer la main aux marchands venus de la RDC. Le virus Ebola se transmet par contact avec des fluides corporels des personnes malades. La Croix-Rouge ougandaise est chargée de dépistage du virus à tous les points d'entrée des personnes venant de la RDC. Pour Natukunda Primrose, directrice de la Croix-Rouge, le danger vient de ceux qui franchissent la frontière sans passer par les postes de contrôle sanitaire.
Ainsi, vous ne savez pas s'ils ont été en contact avec une personne porteuse du virus Ebola, qui a peut-être assisté à un enterrement ou... Peut-être si, à travers des activités commerciales, ils ont touché une personne malade de l'Ebola.
Les troupes ougandaises postées le long de la frontière ont reçu mandat de contrôler le trafic d'armes et des munitions, mais ne sont pas préparées à faire face, encore moins combattre le virus Ebola. Benjamin Sensassi, chargé de communication de l'Organisation mondiale de la santé.
Ils seront vaccinés si nous arrivons là où ils sont. Le seul défi, c'est le suivi. Et nous essayons d'y travailler. Une fois que vous recevez le vaccin, nous devons vous suivre un bout de temps pour nous assurer que tout va bien et que vous n'avez aucun problème.
Les commerçants le long de la frontière espèrent que les mesures prises suffiront à enrayer la propagation du virus Ebola pour que la vie puisse reprendre son cours normal.
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, zoom sur la situation des réfugiés dans le monde à l'occasion de la journée internationale qui leur est consacrée le 20 juin de chaque année. Plus de 25 millions de personnes sont forcées de quitter leur pays pour s'installer dans un autre. Les guerres, les violences et la persécution sont les principales causes de ces déplacements de population constitués pour une bonne partie de jeunes et de femmes. Leurs conditions de vie dans les camps, leur insertion dans leur pays d'accueil, leur prise en charge sont autant de questions que nous aborderons avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez également réagir sur la page Facebook de VOA Afrique.
Ce
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.